C'est Ludique, 9h30, 10h.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique les amis. Au programme, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Middle Ages. Passé sous les radars de C'est Ludique, on retrouve Rachel comme tous les mardis. Salut Rachel.
Bonjour Matt, bonjour les auditeurs.
Alors Rachel, aujourd'hui, quel jeu est passé sous les radars de C'est Ludique ?
Lost Cities, mais pas Lost Cities le jeu classique, Lost Cities le jeu à cocher.
Ah oui, effectivement, il est passé sous les radars. Alors vas-y, explique-nous un petit peu le principe de ce jeu.
Alors, pour mettre l'enrobage, Lost Cities, le jeu à cocher, est un jeu de Rainer Knizia que je pense on n'a plus besoin de présenter.
Non, je
pense. C'est un jeu à cocher vraiment très, très simple, très familial, qui essaye pas de vous vendre une thématique ou quoi que ce soit, qui reprend un peu les trucs à la Quix, qui est mon jeu à cocher préféré, et qui pourtant va reprendre l'essence de Lost Cities. On crée des expéditions dans lesquelles on ne peut poser que des chiffres par ordre croissant.
Ok.
Donc, comment ça va se passer? On a une petite feuille de score sur laquelle il y a 6 pistes, 6 couleurs. À son tour, quand on est joueur actif, on lance 6 dés, 3 qui sont des dés à 10 faces et 3 qui sont des dés de couleurs. Et moi, en tant que joueur actif, je suis le premier à pouvoir prendre une combinaison à l'intérieur, un chiffre et une couleur. Si je prends un 2 rouge, hop, j'ai pas commencé ma piste rouge, je mets mon petit 2 rouge. Mais ce 2 et ce rouge, je les ai pris matériellement devant moi, et donc les autres joueurs ne peuvent plus les prendre. Et donc ils vont peut-être se continuer les grosses valeurs que je leur ai laissées. Mais on imagine, Mathieu, si tu mets... Matt, pardon.
Oh non, tu veux m'appeler Mathieu, pas de soucis.
Si tu mets un site bleu, bah, sur ta piste bleue, tu ne pourras mettre sur les tours suivants que des valeurs supérieures.
Ah ouais, ok.
Voilà. Pour le moment, le principe est tout bête. Là où le jeu commence à être rigolo, malgré juste cette simplicité, c'est que sur les pistes, il y a un petit effet tréfuté. Il y a des combos. De temps en temps, il y a des cases avec des flèches. Ben, quand je mets dessus, hop, j'ai le droit de mettre n'importe quelle valeur sur une autre piste. On retrouve le côté Paris de Lost Cities. Il y a une valeur 0 sur ce dédifat, ça va des 0 à 9. Si je commence une piste par un 0, je doublerai son score.
D'accord.
Soit négatif ou positif. Parce que quand tu commences une piste, les valeurs en face, au début, elles sont négatives. Donc quand tu t'es engagé sur une piste, tu essayes de grimper suffisamment loin. Tu as le droit aussi de refuser de prendre une combinaison de dés. Parce qu'il y a une piste de refus.
D'accord.
Et d'ailleurs, tu vas essayer de la remplir, parce que sur cette piste de refus, si tu ne l'as pas du tout coché, c'est des points négatifs. Donc le jeu te laisse un peu de marge de manœuvre. Mais si tu le fais trop tôt, bah, à la fin, quand tu vas vouloir refuser, tu ne pourras plus. Enfin, c'est vraiment très satisfaisant, c'est très simple. Et je ne comprends pas qu'on n'en ait pas entendu parler et que ce jeu n'ait pas été un succès au même titre. Tu vois, c'est du skijo de jeu à cocher, quoi.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais.
Voilà.
Et non, bah, il est passé un peu sous les radars, j'ai envie de dire.
Oui.
Et c'est ça. Après, voilà, il y a tellement de sorties que c'est compliqué. Et puis, il y a eu aussi, je me demande si c'est pas sorti en même temps. On a eu aussi le My City à cocher.
Oui, je crois que c'est sorti à peu près en même temps.
Ouais.
Mais tu vois, c'est pas... Alors, c'est le même format, mais
c'est pas la même volonté.
Ouais. My City, le jeu à cocher, il y a quand même du gameplay supplémentaire qui se met avec les feuilles. Ça, c'est un jeu où tu peux t'y éclater toi. Moi, je m'éclate, je le sors régulièrement avec des amis, mais c'est un jeu auquel tu peux faire jouer. Tu sais, ces jeux où on dit c'est intergénérationnel, c'est
ouais, voilà,
un
moment, ouais.
Ça peut devenir le rituel avec mamie sans aucun problème.
C'est ça. Très bien.
Alors que My City ne peut pas l'être.
Ouais, ah bah oui, c'est plus compliqué, effectivement. Tu aimes beaucoup hein, les jeux à cocher, je crois, Rachel.
Oui, j'aime beaucoup les jeux à cocher.
C'est quoi ton jeu préféré, à cocher?
Mon jeu à cocher préféré, assez difficile, parce que j'aurais envie de dire au Quix, parce que ça doit se chiffrer à 5000 parties, là où j'en
suis.
Mais en toute honnêteté, mécaniquement, c'est quand même Cartographeur.
Cartographeur, ouais, très très bien. Très bon choix, Rachel. Bon Rachel, merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans C'est Ludique, un mardi, je ne sais pas quel mardi, mais on espère en tout cas le plus vite possible. Merci Rachel et à bientôt.
Merci, bonne journée.
Salut.
En famille ou avec des amis, C'est Ludique, c'est l'heure de jouer.
Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux, troubadours, faites rugir les trompettes et les tambours, car aujourd'hui, on joue à Middle Ages, en français un Moyen-Âge, un jeu de Marc-André. Middle Ages est une refonte du jeu Majesty, mais croyez-moi, Studio H lui a redonné des couleurs. Les illustrations de Claire Conan sont tout simplement magnifiques, finies. Les cartes placent à des tuiles bien épaisses et du très beau matériel, même la boîte a des dorures. Alors je vous invite à découvrir ce joyau. Dans Middle Ages, vous êtes le seigneur de votre domaine et votre but, être le plus riche de tous en fin de partie. Pour l'emporter, il faudra être fort un petit peu partout, en commerce, en agriculture, en combat ou encore en religion. Chaque seigneur a sa stratégie. Certains développeront à plus l'agriculture et d'autres vont privilégier l'église ou les marchés. Alors au niveau de la mise en place, chaque joueur va prendre son plateau fief, c'est là où vous poserez les différentes tuiles qui s'imbriqueront les unes aux autres. On récupère aussi son seigneur sur son cheval, on retrouve les meeples façon Oltré, on révèle 4 cartes événements et on va disposer des tuiles façon King Domino sur 4 rangées, sachant que les tuiles sont numérotées. Selon le nombre de joueurs, on en placera une de plus. Vous jouez à 3, vous mettez 4 tuiles par ligne et au total vous avez 4 rangées. Les tuiles sont placées selon leur numéro par ligne dans l'ordre croissant. Mais alors comment on joue? À votre tour, vous allez poser votre seigneur sur une tuile de la première rangée. Le joueur placé le plus à gauche aura ensuite le premier choix et placera son seigneur sur la deuxième rangée et ainsi de suite. Chaque joueur récupère la tuile sur laquelle il s'est placé, puis la pose dans son domaine. On est sur le gameplay de King Domino. Après, on récupère quelques piécettes, mais avant, il faudra faire l'effet de la tuile. Tout est indiqué sur votre plateau fief. Alors voyons un peu les différents effets des emplacements de votre plateau fief en leur associant les tuiles. Il y a 8 domaines différents, champs, moulins, remparts, villages, marchés, casernes, églises et palais, avec leurs différents effets. Alors quand vous posez une tuile champ, vous gagnez une pièce pour chaque icône paysan présent dans votre domaine. Pour les moulins, tous les joueurs qui ont moins de moulins que vous doivent vous donner 2 pièces. Oui, dans Middle Ages, il y a pas mal d'interactions, car en posant une tuile caserne, vous allez pouvoir attaquer les joueurs qui ne sont pas assez protégés avec leur tuile rempart. En gros, si vous avez plus de casernes qu'un joueur n'a de rempart, il devra mettre leur tuile la plus haute dans le cimetière. Et en plus, ils vous donneront 2 pièces. Je ne vais pas vous parler de tous les effets, mais chaque tuile posée apportera un effet propre à chaque domaine. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en plus de votre seigneur, vous aviez un pion éclaireur. Lui pourra être utilisé quand vous posez une tuile rempart. L'éclaireur part en mission, il va vous permettre de le poser sur n'importe quelle tuile de votre choix, sans respecter la pose du seigneur. En gros, il va réserver la tuile pour votre seigneur, à vous de voir après si vous la prenez. En attendant, aucun autre seigneur ne pourra vous la prendre, elle est bloquée. La fin de la partie est déclenchée au 16e tour. Il faut savoir que les domaines qui n'ont aucune parcelle, aucune tuile, vous feront perdre 10 points par domaine. Voilà pourquoi, même si vous avez une stratégie, il faut se diversifier. On fait la somme des pièces récoltées, celui qui en a le plus est le seigneur le plus riche et remporte donc la partie. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais tous les 4 tours, vous appliquez les effets de la carte événement de la manche. Il y en a 15 possibles et vous jouez qu'avec 4, donc à chaque partie, vous avez une bonne rejouabilité. L'un des événements, c'est les bonnes récoltes. Ça veut dire que chaque joueur en fin de manche gagnera 2 pièces par champ qu'il dispose dans son domaine. Donc là, forcément, tous les joueurs voudront récupérer des champs, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Il faut anticiper dans Middle Ages pour faire les meilleurs coups. C'est très tactique, car forcément, on regarde les fiefs de chaque joueur avant de prendre une tuile, car il y aura des conséquences. Pensez à envoyer votre éclaireur pour bloquer les tuiles, un peu comme dans Splendor, vous réservez une carte, ce qui est logique puisque l'auteur de Middle Ages est aussi celui de Splendor. On va retrouver pas mal de mécaniques de jeux bien connus. J'ai parlé de King Domino tout à l'heure, mais Middle Ages, c'est parfaitement les imbriquer entre elles. Un jeu de pose de tuiles avec de l'interaction, moi je dis oui tout de suite. Au Moyen-Âge, on ne se faisait pas de cadeaux de toute façon. Il ne vous reste qu'à faire le plus beau domaine pour être le seigneur le plus riche du royaume. Bravo à Studio H qui réussit à donner une deuxième jeunesse à ce jeu et qui permet de le faire découvrir à pas mal de nouveaux joueurs.